C'est tout un exercice enlever le masque avec le micro-casque. Je vous le dis, c'est un piège. Eh bien, après un chant comme ça, je ne sais plus trop quoi dire. J'ai l'impression que le chant a tout dit ce que je voulais dire. C'est comme des prières, hein, ces chants-là. Ça vient chercher en nous des réflexions et aussi des désirs. Ça fait surmonter des prières, des requêtes. Et je pense que vous en avez entendu beaucoup, hein, des souhaits. On souhaite des choses et on s'est souhaité des choses. Beaucoup. Mais au cours des derniers jours, on a entendu, on en a lu. Alors, moi, je vous souhaite, pour 2021, de la lumière. Pas n'importe quelle sorte de lumière. Comme on a chanté, cette lumière-là qui éclaire et qui donne cette espérance de vie remplie et satisfaisante. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça, hein? Et il y a des gens qui l'ont saisi, ça, cette espérance-là. Êtes-vous de ceux qui ont saisi cette espérance-là, cette joie qui vient de cette lumière qui éclaire les nations? En tout cas, je vous le souhaite, si vous ne l'avez pas connu, je vous le souhaite ardemment. Et comme je le mentionnais, on s'est partagé toutes sortes de souhaits dans les derniers jours, parce que les souhaits, c'est comme des attentes. On attend des choses. On souhaite. Peut-être que même on languit pour certaines choses. Et c'est curieux que même en 2021, avec toutes les technologies de communication, tous les moyens de divertissement qu'on a à la maison même, hein, à portée de la main, partout où on va, tous ces trucs électroniques-là, ces jeux, ces émissions, etc., pour nous divertir, on pourrait même penser là, que, tu sais, l'histoire du confinement, il n'y a rien là. Hein, le confinement, ce n'est pas vraiment un obstacle à notre vie sociale. Mais pourtant, on a vécu des choses très difficiles et on continue de le vivre ensemble. Et je vais vous présenter ce matin des souhaits que ma sœur a publiés sur Facebook, et je le fais avec sa permission, des souhaits. Je trouvais ça beau. Et je trouvais ça intéressant. On pouvait lire dans ça des désirs, hein, des désirs qui représentent ce que l'on vit actuellement. Alors, comme j'ai dit, je le mets avec sa permission parce que je trouvais ça interpellant. Alors, ses souhaits, les souhaits que ma sœur a envoyés à ses amis sur les réseaux sociaux sont les suivants. Hein, je vous souhaite pour 2021 de l'espoir, hein, des grands changements, des rapprochements, des câlins à profusion, des repas en famille, des repas entre amis, la liberté, la santé, l'amour et des bisous à profusion, j'imagine. Hein? Mettre dans l'ordre que vous voulez et pour cela, patience et résilience. Hein? Une chance qu'on a ça. Alors, on voit une liste là qui est très représentative de ce qui nous manque. C'est comme un constat évident que l'être humain est un être relationnel, hein, qui a besoin de cette réalité-là, pas virtuelle, la réalité du contact. C'est un besoin essentiel. Et que même malgré toutes les rencontres sur Zoom ou Teams ou nommez-les, c'est comme une patch, un plaster. C'est un pansement temporaire. ça ne fait pas complètement la job que si on avait cette rencontre de personne à personne. C'est évident, on en a besoin. Qui n'avait pas hâte de se retrouver ici? Hein? Juste pour le contact, de voir, hein, il est là, tu sais, puis de pouvoir le saluer. C'est l'écran, il y a comme cette barrière-là, il y a comme un fossé, même si on peut se voir, même si on sait que vous êtes vivant de l'autre bout de l'écran, il y a comme un fossé. Et on va regarder ensemble, ce matin, une rencontre, une vraie rencontre, pas virtuelle, il y a eu une vraie rencontre qui a eu lieu dans les semaines qui ont suivi la naissance de Jésus. Et dans le récit, là, les bergers qui ont reçu cette annonce d'un ange du ciel, d'aller voir cet enfant qui est né, ce sauveur qui est donné, hein, dans les heures qui ont suivi cette visite, sont allés voir l'enfant à la crèche, sont allés à l'étable, à Bethléem, précisément où les anges leur avaient dit d'aller, et sont repartis en louant Dieu, et évidemment en donnant toute une impression aux parents, à Marie et à Joseph. Alors, voilà dans l'histoire où on en est rendu, et je vous invite à tourner, si vous avez vos Bibles, dans l'Évangile de Luc, au chapitre 2, et on va lire à partir du verset 21. Le huitième jour, auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir en sacrifice deux tourterelles ou deux jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Au verset 26, il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, laisse ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Béni soit la parole de Dieu. On va s'arrêter là. Il y aurait plus à lire, évidemment, mais on va se limiter ce matin à cette rencontre et ce que Siméon a prononcé comme parole. Alors, on va faire un survol, quelques observations sommaires de notre contenu ce matin, hein, pour se donner un contexte et souligner quelques points avant de peut-être regarder plus en détail ce qui vraiment nous intéresse ce matin. Alors, premièrement, c'est un récit qui est unique des Évangiles. Seulement, Matthieu et Luc relatent des événements entourant la naissance de Jésus. C'est absent. Chez Marc et Jean, il n'y a pas de détails entourant ces circonstances. Mais dans Matthieu et Luc, il y a des circonstances et chacun des textes contiennent des portions uniques, comme notre texte de ce matin, qui est unique à Luc. Tout comme la visite des mages, qui est unique à Matthieu. Deuxièmement, Joseph et Marie suivent scrupuleusement les ordonnances concernant les naissances. Lévitique chapitre 12, hein, des ordonnances concernant la naissance des garçons et des filles, et aussi de les présenter, de présenter le premier garçon, le premier mâle né à l'Éternel, au temple. On voit aussi qu'il quitte Bethléem pour Jérusalem après environ 40 jours. Si on veut y aller exactement, c'était 8 jours lors de la circoncision et 30 jours d'attente pour le temps de purification. Donc, on peut arrondir tout dépendant s'il y avait des temps pour le voyage et tout cela. Donc, autour de 40 jours, il quitte Bethléem pour se rendre à Jérusalem. Et là, ils font la rencontre de Siméon au temple. Et voilà, c'est cette rencontre-là ce matin, je pense, qui est très importante d'examiner. Siméon a eu une révélation, il a eu une promesse qu'il faut absolument saisir. Mais avant de le faire, je veux peut-être juste soulever un détail qui j'ai pas pu résister concernant justement cette chronologie-là. On ne l'a pas lu, mais au verset 39 concernant ce départ, parce qu'ils ont resté un temps. L'Écriture ne dit pas combien de temps ils ont resté à Jérusalem, mais les Écritures indiquent que lorsqu'ils eurent eu accompli ce qu'il y avait à faire au temple, ils sont repartis pour la Galilée à Nazareth. Donc, en ce qui concerne par rapport à la fameuse visite des mages dans Matthieu chapitre 2, on sait que traditionnellement, en tout cas chez les Canadiens français, on a longtemps célébré les rois mages. Les rois mages, hein, le deuxième dimanche du Nouvel An. C'est une tradition aussi qui montrait aussi ces trois rois mages qui apportent les cadeaux à Jésus dans cette étable de Bethléem. Et parfois, on les voyait même en présence des bergers, pour en déduire qu'ils étaient là la nuit de la naissance. Alors, premièrement, juste pour indiquer qu'il n'y a rien dans les Écritures, il n'y a rien dans les Écritures qui indique que ces hommes détenaient le titre de roi, ni combien ils étaient. C'était de la spéculation, de la tradition. Et deuxièmement, on peut aisément déduire des Écritures que Jésus avait au moins 2 ans lorsque les mages arrivèrent en Judée, selon le temps qu'ils avaient indiqué à Hérode par rapport à l'étoile, depuis combien de temps l'étoile brillait. Donc, la Sainte Famille n'était plus à Bethléem dans un étable depuis plusieurs mois. Donc, comme je le mentionnais, on va regarder qu'est-ce qui se passe avec notre personnage Siméon. Alors, premièrement, le texte mentionne que Siméon était un homme pieux et qui craignait Dieu. Il était juste devant les yeux de l'Éternel. Et c'est important de le mentionner parce que Siméon avait une mission. Siméon avait reçu une promesse, et une promesse qu'il allait voir de ses propres yeux, et il allait rencontrer cette promesse-là en personne. Donc, Dieu s'est pourvu de quelqu'un de qualifié spirituellement, intérieurement, pour accomplir ce travail pour lui. Deuxièmement, il était porteur de cette promesse. Cette promesse qui disait qu'il verrait le salut d'Israël avant de mourir. Il verrait le salut d'Israël. C'était quelque chose de grandiose pour n'importe quel juif de cette époque. C'était quelque chose qui, pour lui, il allait voir ce que des générations attendaient, des générations et des générations. Et il allait le voir avant de mourir. C'était une promesse qui venait de l'Éternel, faite par le Saint-Esprit même, et l'Éternel remplit ses promesses. Troisièmement, le texte le mentionne qu'il est poussé par l'Esprit. Alors, Siméon n'est pas un devin. Siméon, à un moment donné, ne sachant quand cette promesse allait s'accomplir, le Saint-Esprit le pousse vers l'endroit, le pousse vers ce lieu, vers ce moment pour avoir cette rencontre. On voit que le Saint-Esprit, hein, fidèle à son ministère, comme on le voit dans l'Ancien Testament, il agit hein, dans des moments spontanés, ponctuels, et envoie ce moment-là, Siméon, à un endroit précis pour aller à la rencontre de cette promesse. Et quatrièmement, il va faire deux énoncés. Il va s'adresser à Dieu sous la forme d'un cantique et il parle ensuite à Marie. Et c'est son cantique qui nous intéresse ce matin parce qu'il explique, qu'est-ce que Siméon attendait. Hein, il attendait, comme on lit dans les versets 29 à 32, et je vous les relis. Hein. « Maintenant, Seigneur, laisse ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Alors, pour bien comprendre Siméon, il faut retourner au commencement. Au commencement, en Éden, l'homme et la femme étant en parfaite union entre eux deux, mais surtout avec leur Créateur. Et ils vivent sans connaître les petits bobos, la maladie, même la mort. Il n'y avait à ce moment-là rien qui pouvait entraver cette relation, cette vraie relation, cette proximité entre Dieu et sa créature. Hein, c'était bon. Hein, et ce besoin relationnel qui est tellement fort en nous, moi, personnellement, j'ai comme la conviction même que Adam pouvait partager à Dieu quand il conversait avec, qui lui partageait même ses moments de solitude avant que Ève soit créée de sa côte. Il lui partageait à Dieu le fait qu'il trouvait ça difficile d'être seul et que malgré une création bonne, parfaite, exempte du péché, Dieu a lui-même formulé le constat que la solitude d'Adam n'était pas bonne. On ne sait pas combien de temps s'est écoulé. Cependant, Dieu y a entendu le cri de son cœur et lui a créé une aide, une compagne, parfaitement conçue pour compléter ce qui manquait à l'homme et ce qui manquait pour remplir la terre de leur progéniture. Et Dieu leur demande qu'une seule chose, une seule. Et puis, à un moment donné, ils ont choisi un mensonge qui leur garantissait de devenir égal à Dieu. Cette union parfaite entre le Créateur dont jouissaient Adam et Ève a été contaminée, entachée. Il y a un virus qui s'est introduit dans le système. Il y a une pandémie mondiale permanente qui est déclenchée. Fini cette communion intime avec le Créateur. Dieu met l'humanité en confinement. Non seulement l'homme perd son immortalité, mais un vide énorme s'installe dans son cœur. La perte de cette relation, de cette proximité qu'il avait avec le Créateur, qui lui apportait cette pleine satisfaction, le contentement total, le complet et véritable sens de la vie. Et pendant quelques centaines de siècles, l'homme use de son intelligence et tente par toutes sortes de moyens de combler ce vide, mais en vain. Mais il y a une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle dans ça, parce que Dieu, dans sa sagesse infinie, hein, depuis l'éternité, il met un plan de sauvetage à l'œuvre, un plan de sauvetage pour sortir l'humanité de cette pandémie mortelle. Un plan que Dieu lui-même annonce, Hein? Il l'annonce au serpent dans le jardin d'Éden, hein, qu'un descendant d'Ève allait lui écraser la tête et avoir la victoire sur ce virus qui est le péché. Et à partir de ce moment-là, Dieu dévoile progressivement son plan à travers différentes actions et multitude de serviteurs au fil des siècles. Hein, vous connaissez ce fameux deuxième couplet de ce chant de Noël traditionnel. Hein? Il est né le divin enfant et on chante hein? « Depuis plus de 4000 ans, nous annoncent tous les prophètes. Depuis plus de 4000 ans, nous le promettaient, nous attendions cet heureux temps, un temps de consolation. Un sauveur était promis, un Messie qui allait réparer et rétablir toutes choses. Et de génération en génération, ceux qui croyaient, comme Siméon, ils s'accrochaient à cette promesse-là. Et puis, ils attendaient. Et pourrait-on dire, avec patience et résilience, Israël attendait, hein, comme peuple, comme nation, il attendait. Mais il y avait une différence entre ce que les Écritures annonçaient, ce que Siméon savait, hein, et ce que le peuple désirait. Vous savez hein, que dans la collectivité, maintenant, il vient comme un mouvement. Il y a comme une pensée. Ce n'est plus des pensées singulières où des gens savent ce qu'il y a à savoir. C'est que tout le monde sait ce que tout le monde veut savoir. C'est comme une pensée collective. Et puis ça, c'est dangereux. Israël attendait une délivrance de leurs souffrances. Des souffrances terrestres, les guerres, les invasions, les dominations, le contrôle, la taxation, la corruption, la pauvreté, la famine, la maladie, et j'en passe. Écoutez, on ne peut pas les blâmer. On agit souvent de la même façon. La chose qu'il faut garder à l'esprit est que toutes ces choses, ces malheurs qui font partie de ce monde depuis la chute en Éden jusqu'à ce que Dieu fasse toute chose nouvelle. Ça ne changera pas. Ça a toujours été. Voyez les problèmes qu'Israël faisait face. Si vous écoutez les nouvelles internationales, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Tout ce que j'ai énuméré existe encore. Et même à plus grande échelle. Et là, Israël, bien, c'était la énième vague qui est frappée. Hein? Il y a eu les invasions assyriennes, puis ensuite la domination babylonienne sur la Judée, la diaspora qui s'en est suivie, les dominations médo-perses, grecques, syriennes, pour aboutir à la situation qui prévalait à ce moment-là, au temps de Siméon, la domination romaine. Ils ont eu plus que deux vagues. Et tout ce temps-là, on attendait un héros. Un leader politique, militaire, qui allait rétablir Israël dans sa primauté, dans la gloire des siècles passés, du temps de David et de Salomon. Il voulait retrouver ça absolument. Et finalement, celui qui voyait comme sauveur, il est arrêté puis il est exécuté. Et puis moins d'un siècle après sa mort, après la venue du Sauveur qu'il croyait, le cœur même d'Israël, son temple à Jérusalem et les murailles sont alors complètement détruites. Et exactement comme le Seigneur lui-même l'avait annoncé. Il l'avait annoncé à ses disciples. Hein, voyez-vous tout cela? Hein, quand il visitait le temple, il montrait à Jésus, « Regarde la construction qui est ici. » Il dit, « Voyez-vous tout cela? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. » Et en l'an 70, c'est exactement ce qui est arrivé. Alors, on aurait raison de se poser la question si on était à leur place. Hein, quelle sorte de plan de sauvetage que c'était ça? C'est certain que pour bien des Juifs, la déception a été totale. ce Jésus de Nazareth qui leur avait créé des fausses attentes. C'était un pétard mouillé. Il a manqué sa chatte. Ou il a choqué. Pauvre gars. Puis pauvre de nous qui a embarqué dans sa galère. Vous savez, face à l'adversité, le monde, même encore aujourd'hui, même dans sa résilience et dans sa patience, il attend toujours une solution. Hein, une solution miracle qui va éliminer les épidémies, les guerres, les gaz à effet de serre, la surconsommation, l'injustice, la criminalité, la pauvreté, la famine, le cancer, le mal de vivre, la solitude, le confinement. Écoutez, c'est sûr, il n'y a rien de mal à vouloir mettre en place des solutions à tous les problèmes que la vie, pour que la vie soit agréable, paisible, palpitante, festive. Il n'y a rien de mal à cela. Mais ce matin, moi, je veux péter votre bulle. Je veux vous décevoir. Si vous êtes de ceux qui vivez de solution en solution, ou un plan de sauvetage mondial, global, à tous ces problèmes-là, à un moment donné, il va en avoir un. Prochainement. Bientôt. Mais je vous le dis, vous ne voulez pas faire partie de ce mouvement-là. Mais ça, c'est un autre sujet qu'on pourrait développer. Mais moi, je vous invite ce matin à considérer plutôt ce que Siméon attendait. Son attente était basée sur des prophéties, des promesses venant de prophètes de l'Éternel et sur lesquelles on pourrait faire une étude complète, sur les dizaines de prophéties messianiques, juste dans l'Ancien Testament, des dizaines qui se sont accomplies jusqu'à Siméon. Et Siméon attendait la consolation d'Israël, mais non seulement ça, il s'agissait d'une personne, le Christ du Seigneur. La solution est personnifiée, est en chair et en os. Ses yeux ont vu le salut. C'était un bébé qui regardait. Il dit, mes yeux ont vu le salut et qu'il allait agir pour tous les peuples, pas juste Israël, qui allait être la lumière pour toutes les nations. Et c'était quelque chose, ça, ce qu'il déclarait là. Parce que les Juifs étaient assez propriétaires de leurs choses, hein, et ce qui était à eux n'était pas pour les nations païennes. Et voilà que la plus grande annonce, ce que le peuple d'Israël attendait, ça va être pour tout le monde. Ça pouvait être chacun pour des gens qui écoutaient autour. Mais il le mentionne quand même que c'était aussi pour la gloire d'Israël. Siméon, il n'a pas vu quelqu'un avec un système politique ou une stratégie militaire ou une technologie biomédicale ou toute autre sorte de solution qui doit être ajustée, révisée, réinventé après 25 ans parce que tout a évolué autour. Il a vu le salut, une lumière en la personne de Jésus, qui était alors même un bébé, un tout petit enfant. Et il voyait chez ce petit enfant ce qui était de plus grand, ce qui était de plus grand pour l'humanité. Cette révélation-là à l'esprit de Siméon en dit long sur la façon dont on doit percevoir et comprendre aussi le réel problème, la solution qui est appliquée au problème. Il faut le comprendre, ce problème-là. Hein? Et le problème émane de la chute en Éden, que ses répercussions sont implacables. Le péché s'est introduit dans le monde et non seulement il rend le cœur de l'homme orgueilleux, tortueux et ingénieux au mal, mais il s'attaque à l'essence même de ce qui nous fait vivre. De sorte que, dès notre naissance, notre corps commence son long périple, parfois court, hein, vers la mort. Et c'est le péché qui fait ça, mes amis. Même si vous êtes vacciné par Pfizer ou Moderna, faites votre choix. Ou même si vous avez une greffe du cœur, vous savez, on va tous mourir. Et à date, il y a seulement deux hommes qui ont eu l'immense privilège de ne pas connaître la mort terrestre avant d'être enlevés au ciel, à date. Cependant, il y a 8 cas dans les Écritures qu'il y a des personnes décédées qui ont été ramenées à la vie, mais qui sont morts une deuxième fois, même s'ils ont été ramenés à la vie. Ça, je ne sais pas si c'était vraiment un privilège. Même Lazare, que Jésus a ramené à la vie, il est éventuellement retourné au tombeau. Je peux juste imaginer Lazare, hein? « Hey, merci Seigneur! » « Oh, écoute, remercie-moi pas trop vite. » Tu vas y retourner. C'est pas fini. Alors, certains qui m'écoutent ce matin vont peut-être dire, « Hey, Gisèle, le type sur Internet qui parle, il nous annonce qu'on va tous mourir. Tu parles d'un scoop, toi. » Ou bien, vous êtes peut-être de ceux qui disent, « Bien là, écoute, ça ne peut pas être pire ce que tu es en train de nous raconter là. » Bien, il y a pire encore. Que tous ceux qui meurent sans la solution sont voués à une éternité dans un lieu totalement dépourvu, vide de la présence et de l'action de Dieu. Un lieu vide de l'amour et de la grâce de Dieu. Ça, c'est l'enfer, mes amis. Et Dieu ne forcera pas personne à être dans sa présence dans le paradis pour l'éternité s'ils en ont exprimé le désir pendant leur court séjour sur terre. Après la mort, tous ressusciteront. Eh oui, tout le monde va ressusciter. Et tous comparaîtront au jugement qui les enverra directement dans la Géhenne. Mais sachez que ce n'est pas juste un jugement au cours duquel il y a une évaluation de votre vie et que là, vous allez tenter par tous les moyens de semer un doute raisonnable au juge. C'est assez simple, en fait. Et puis, laissez-moi juste peut-être utiliser cette illustration-là. On va vous prendre une prise de sang. Ils vont l'analyser. Et puis, le juge va déterminer si ça va ressortir positif ou négatif. Mais selon vos œuvres, ça va ressortir positif. C'est contaminé. C'est la quarantaine éternelle. Lorsqu'on a saisi que notre pire problème n'est ni terrestre, ni corporel, mais ça prend une solution qui va au-delà de ce que l'homme peut faire pour le régler. Puis devant un tel problème, la solution doit être permanente, finale, permanente, infaillible et accessible. C'est-à-dire, il n'y a pas de mise à jour à faire, pas de rappel. La solution doit fonctionner même si nos problèmes et nos souffrances continuent. Et ça, Siméon, il avait vu le salut, mais il savait que son corps allait continuer de faiblir et qu'il allait mourir. C'était ça la promesse, tu vas voir le salut avant de mourir. Le salut n'allait pas le sauver de sa mort corporelle. Parce qu'il l'a dit, « Laisse ton serviteur s'en aller en paix maintenant. Laisse-moi mourir selon ta parole. » Donc, la solution transcende. Hein? Elle n'est pas affectée. Elle transcende le péché qui nous tue physiquement et spirituellement. Et la solution est globale. Même si elle est issue d'Israël, elle va s'appliquer à toutes les nations, à tout le monde. C'est universel. Elle est offerte. Le vaccin est offert et disponible à tout le monde. Et on peut penser à l'exemple des deux disciples d'Emmaüs dans Luc 24, hein, qui mentionne à cet homme qui les rencontre sur le chemin du retour chez eux et qui sont tous découragés, qui disent « Nous espérions », ils disent eux-mêmes « Nous espérions que ce soit lui qui délivrait Israël ». Il attendait une solution terrestre. Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire, hein? Tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? » Et commençant par Moïse et tous les prophètes, il leur expliquait ce que les Écritures en ce qui le concernait. La solution doit s'effectuer à l'intérieur d'un système qui est institué par Dieu lui-même, un système sacrificiel. Et si vous voulez avoir une bonne explication de ça, si vous avez manqué le message de dimanche dernier de notre frère David Cadotte, je vous invite à le réécouter, qui explique très bien de quelle façon Dieu a élaboré et mis en œuvre un plan de rédemption basé sur le sacrifice. Et Jésus allait être la clé finale de tout ce système. Et à travers ce sacrifice, il y a eu une réconciliation. Et on le lit dans 2 Corinthiens chapitre 5, au verset 19 à 21. « Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même en n'imposant point aux hommes leur offense. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Christ lui-même est le vaccin, il est l'antidote. » Il y en a peut-être qui vont commencer à penser qu'il y a un complot, qu'on est en train d'annoncer ici à l'Église qu'il faut que vous soyez vaccinés. Mais on parle de ce vaccin-là, celui, le vrai, hein? Pas celui de la grippe ou pas celui d'un virus, mais le vrai virus, le péché. Et si vous avez remarqué, celui-là, je l'ai trouvé bonne, la seringue est en forme de croix. Êtes-vous capable de dire ce matin comme Siméon, hein, « Je peux mourir en paix maintenant parce que mes yeux ont vu le salut, je le connais. » On peut faire ce même cantique que Siméon a fait. Hein? J'ai reçu sa consolation. J'ai reçu cette consolation dont celle dont Siméon et d'autres avant lui attendaient. On est dans la souffrance, on vit dans la souffrance, on meurt dans la souffrance, mais la consolation que Dieu nous offre à travers de la personne de Jésus-Christ est toujours présente et efficace. Qu'est-ce que vous attendez en 2021? Attendez-vous une vraie consolation? Toutes ces choses que ma sœur a bien énumérées, est-ce que vous ne pensez pas qu'on peut la retrouver, hein, en la personne de Jésus-Christ? Cette paix, cet espoir, ce réconfort, cette présence. En tout cas, moi, je vous la souhaite. Que le Seigneur vous bénisse. Prions. Oui, Seigneur, on veut te remercier pour ce récit. Cet homme, Siméon, que tu as mis sur la route de Marie et Joseph pour leur annoncer quelque chose qui est absolument grandiose. Oui, Seigneur, ce salut que tu avais préparé depuis l'éternité et que tu as présenté à cet homme Siméon sous la forme d'un enfant et que même lui en était émerveillé. On veut s'émerveiller ce matin de ton salut et de cette lumière que tu as envoyée pour éclairer les hommes qui étaient incapables de te trouver par eux-mêmes depuis la chute en Éden. Merci Seigneur Dieu pour ta grâce. Merci pour ce beau cadeau, ce présent que tu nous as fait en la personne de Jésus-Christ. Et Seigneur, c'est notre souhait cette année que le plus grand nombre te connaisse, Seigneur, et qu'ils connaissent cette consolation définitive et permanente qui les amènera auprès de toi pour l'éternité. En Jésus que nous te prions. Amen.